France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Une opportunité historique de parvenir à la paix. Ce matin, le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé sa dissolution. Nous irons à Istanbul dès le début de ce journal pour marquer la fin, a priori, de plus de 4 décennies de guérilla contre l'État turc. Se dirige-t-on vers des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, voire un sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? L'hypothèse est désormais sur la table. Nous serons à Moscou. On détaillera par ailleurs l'accord conclu entre les États-Unis et la Chine visant à réduire temporairement leurs droits de douane réciproques. Et puis l'actualité en France, c'est tout d'abord cette lettre envoyée ce matin par Gérald Darmanin au magistrat et dans laquelle le garde des Sceaux détaille plusieurs pistes pour durcir la réponse pénale face à la délinquance et à la récidive. Enfin, comment lutter contre la soumission chimique? Un rapport parlementaire doit être rendu aujourd'hui au gouvernement. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, la médecin Leïla Chaouachi. Même si la décision était attendue, elle n'en reste pas moins historique. Ce matin, l'organisation militante PKK a donc annoncé la fin de sa lutte armée en vigueur depuis 1984 et ce, conformément à l'appel lancé depuis sa cellule au mois de février dernier par l'icône de la cause kurde en Turquie, Abdullah Öcalan. Tous les groupes doivent déposer les armes, avait-il alors ordonné dans un long message, ce que le Parti des travailleurs du Kurdistan a donc confirmé à l'issue de son 12e congrès officialisant ainsi la fin de 40 années de guérilla qui ont fait plus de 40 000 morts. Alors forcément, après déjà 2 tentatives vaines au début des années 2000, puis en 2013, il convient de rester prudent. Quelles sont les chances réelles cette fois-ci de parvenir à la paix? Élément de réponse avec notre correspondante à Istanbul, Marie-Pierre Véraud.
Eh bien d'abord, l'appel émane de Öcalan, le fondateur toujours très respecté du PKK, même s'il est emprisonné depuis près d'un quart de siècle. Ces mots portent. La population kurde est aussi épuisée par des décennies de guerre contre l'armée turque qui ne lui ont apporté que malheurs et destructions. Et puis la donne a changé dans la région avec la chute de Bachar al-Assad et les discussions ouvertes entre Damas et les Kurdes de Syrie. Le PKK fait le constat dans son annonce de ce matin que son objectif a été atteint, que la lutte armée a permis de faire exister la question kurde. Il est vrai largement ignoré jusqu'alors en Turquie, et que les armes peuvent désormais laisser la place à un processus démocratique. Et puis, pour une fois, le pouvoir turc, à l'initiative de cette nouvelle tentative de paix, a intérêt à ce que cela marche. Et c'est là une manœuvre politicienne du président Erdogan qui veut s'attirer les faveurs des électeurs kurdes. Il entend diviser l'opposition. Il a compris que tant que le parti pro-kurde soutiendrait le parti républicain du peuple, il ne pourrait plus gagner d'élection. Mais de nombreux points restent à régler qui peuvent faire déraper ou retarder le processus. Comment déposer les armes? À qui les remettre? Mais surtout, le PKK demande à l'État turc de faire un pas désormais vers la démocratisation avec la libération des prisonniers politiques ou malades, la reconnaissance du peuple kurde et de ses droits, notamment en matière culturelle. Pour l'heure, aucune contrepartie officielle à cet abandon des armes, un geste qui apparaît comme unilatéral, n'a encore été annoncé par le pouvoir turc. Or, ce sont ces contreparties qui pourront assurer le succès de l'opération.
Toute la nuit, les défenses aériennes ukrainiennes ont riposté aux attaques de drones russes.
Et ce, en dépit de l'ultimatum adressé ce week-end par les alliés de Kiev à Moscou pour accepter un cessez-le-feu de 30 jours préalable à des discussions de paix. Alors rien de très étonnant à cela, dès lors que le maître du Kremlin avait d'ores et déjà écarté cette trêve exigée par les Européens, préférant lui mettre sur la table des négociations directes, sans conditions, à partir de jeudi prochain à Istanbul. Une manœuvre diplomatique que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt saisi au vol pour lui proposer de le rencontrer personnellement. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, Vladimir Poutine va-t-il accepter ce rendez-vous en forme de duel? Pour l'heure, Sylvain, la réponse du Kremlin se fait toujours attendre.
Oui, pas de réaction à cette heure, pas de réponse à cette proposition manifestement embarrassante pour le Kremlin. Vladimir Poutine est sous pression, clairement, en témoigne le fait qu'il a dû réagir dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, lisant des notes manuscrites qu'il avait apparemment rédigées lui-même. Le président russe avait alors, pensait-il, réussi à écarter ce dont il ne veut pas entendre parler depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la trêve de 30 jours inconditionnelle que lui réclame Washington, mais aussi les Européens réunis à Kiev samedi. samedi autour de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien, qui dans un premier temps a refusé la contre-proposition russe de reprise des négociations à Istanbul, avant de l'accepter sous la pression de Donald Trump, mais en y ajoutant un détail qui a toute son importance, j'irai à Istanbul jeudi et j'attendrai Vladimir Poutine. Et voilà donc la balle renvoyée dans le camp du Kremlin, confronté à un dilemme et une menace. Le dilemme, c'est vaut-il mieux ne pas aller à Istanbul, passer pour celui qui ne veut pas discuter, ou y aller et parler d'égal à égal avec Volodymyr Zelensky, que Moscou s'emploie à délégitimer depuis des mois. La menace, c'est celle encore un peu floue des nouvelles sanctions européennes coordonnées avec Washington. Donald Trump n'a pas encore été très explicite sur ce point, mais dans son dernier message, il évoque la possibilité de réagir en accord avec les Européens si un accord n'arrive pas. Il ironise sur le fait que Vladimir Poutine semblait trop occupé à célébrer la victoire de 1945 ces derniers jours et lui rappelle perfidement qu'elle n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide des États-Unis. Manifestement, Donald Trump est agacé.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Au terme de deux longues journées de négociations, Washington et Pékin ont fini par communiquer leur satisfaction. Les États-Unis et la Chine se seraient enfin accordés pour résoudre la guerre commerciale qui, à coup de surtaxes punitives, avait fini par ébranler toute l'économie de la planète. En l'occurrence, et dans un premier temps, les deux premières puissances mondiales vont suspendre pour 90 jours la majeure partie des tarifs prohibitifs qu'ils s'étaient mutuellement imposés. Frédéric Seitz, bonjour.
Bonjour Thomas.
Concrètement, cette décision devrait ramener donc provisoirement les droits de douane américains sur la Chine à 30% et les droits de douane chinois sur les États-Unis à 10%.
Oui, bien loin des surtaxes actuelles entre 125 et 145% de droits de douane de part et d'autre. Alors cet accord a été conclu depuis Genève, en Suisse, après deux jours de négociations entre hauts dirigeants, le vice-premier ministre chinois d'un côté, le secrétaire américain au Trésor de l'autre, Scott Bessent, qui justifie ce changement de ton de Washington. Nos deux pays ont des intérêts en commun, dit-il, et ni la Chine ni les États-Unis ne veulent dissocier leurs économies. Voilà pour la version officielle. Dans les faits, c'est surtout le début de panique économique déclenchée par cette guerre commerciale qui a poussé Donald Trump à adoucir sa position. Face aux incertitudes ces dernières semaines, les entreprises avaient souvent suspendu leurs commandes et l'annonce surprise d'une récession aux États-Unis au premier trimestre a encore amplifié les craintes. Pékin salue ce midi des progrès substantiels mais compte poursuivre les négociations car même largement abaissés, ces droits de douane à 30% restent un handicap pour l'économie chinoise. Imaginez qu'aux États-Unis, sur 10 smartphones vendus, 8 ont été fabriqués en Chine. C'est aussi le cas pour 3/4 des consoles de jeux et des jouets pour enfants. Une quasi-hégémonie qui va peser sur le pouvoir d'achat des Américains. La lutte contre l'inflation était pourtant l'une des priorités de la campagne de Donald Trump.
Merci Frédéric Seitz. À la veille de la publication de ses résultats annuels, l'information résonne déjà comme un sérieux coup de frein. Le constructeur automobile Nissan prévoirait de supprimer 10 000 emplois supplémentaires dans le monde après avoir déjà annoncé 9 000 licenciements à l'automne dernier. Aux Philippines, c'est sous une chaleur écrasante que la population a commencé à voter ce matin pour des élections de mi-mandat en forme de duel pernicieux entre les deux dynasties au pouvoir. D'un côté, le président Ferdinand Marcos Jr., fils de l'autocrate du même nom, et de l'autre, sa vice-présidente Sara Duterte, la fille de l'ancien chef d'État accusé de crimes contre l'humanité.
Lui obtiendra-t-il un quatrième mandat consécutif ?
Lui, c'est le premier ministre socialiste albanais sortant, ce qui, le cas échéant, serait totalement inédit, à moins qu'il ne soit détrôné par une opposition aussi disparate que déterminée à le renverser. Les résultats des élections organisées hier se font toujours attendre, un scrutin jugé crucial pour les rêves européens de ce petit pays, la péninsule balkanique.
Midi 39 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Simplifier la justice civile, clarifier l'éventail des peines, repenser la prison. Gérald Darmanin a pris la plume pour s'adresser aujourd'hui aux magistrats et leur préciser dans une missive de 4 pages les mesures disruptives envisagées pour répondre aux grands maux de la justice en France. Le garde des Sceaux veut notamment étendre la procédure de plaidé coupable au crime, mais aussi supprimer la prison avec sursis ou bien encore développer des peines alternatives à l'incarcération en cas de première infraction. Bref, une vaste réforme du système destinée à désengorger les tribunaux face à une surpopulation carcérale désormais hors de contrôle. Près de 83 000 détenus pour seulement 62 000 places disponibles. Faux, répond Lucien Argibet, du secrétaire national du syndicat de la magistrature. Selon elle, c'est probablement tout le contraire qui risque même d'arriver, d'autant plus que Gérald Darmanin prend en réalité le contre-pied du rapport commandé par son prédécesseur et qui vient tout juste de lui être remis. Elle explique pourquoi, Florence Turme.
ce rapport préconise un mécanisme de régulation carcérale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire limiter le nombre de détenus. Nous, c'est quelque chose qu'on défend depuis longtemps au syndicat de la magistrature. C'est quelque chose qui est également porté par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. C'est l'idée, finalement, que lorsqu'une personne rentre en détention, il faut qu'on pense à la sortie d'une autre personne pour ne jamais dépasser un seuil maximal de détenus. Et cette proposition qui lui a été faite la semaine dernière, le ministre de la Justice la met de côté et finalement nous propose une politique encore plus répressive. Il propose, sous couvert de simplification, de supprimer un certain nombre de peines existantes et notamment la peine de sursis simple. Ce qu'il indique, lui, c'est qu'il existe trop de peines, 200 peines. Alors on peine un peu à comprendre comment il les a comptées. Toujours est-il qu'il nous dit qu'il y en a trop et qu'il va finalement réduire ce nombre de peines à 4 avec donc une peine de probation. Et donc dans cette peine de probation, qui est un peu une peine fourre-tout, il va comprendre toutes les anciennes peines finalement qui existaient, avec cette spécificité qui nous indique que la première violation d'une obligation de cette peine de probation conduira à l'incarcération. Donc, nous, on se demande vraiment ce que ça veut dire, parce que cette incarcération automatique, cette suppression du sursis simple, eh ben, elle va nécessairement augmenter le nombre de détenus. C'est une excuse finalement, parce que là où on nous dit plus de clarté, se cache plus de sévérité. Sous couvert de simplicité, on a un régime beaucoup plus grave qui est proposé.
Voilà, Lucien Argibaille, du secrétaire national du syndicat de la magistrature, elle répondait à Florence Turm. Promesse de longs déchirements jusque tard dans la nuit, la question de la fin de vie fait son retour à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. 2 semaines de débat au total pour 2 propositions de loi, l'une relativement consensuelle portant sur les soins palliatifs et l'autre beaucoup plus clivante sur la création d'une aide à mourir, soit l'autre nom du suicide assisté ou de l'euthanasie, et qui aujourd'hui encore suscite de très vifs débats, y compris d'ailleurs au sein même du gouvernement, preuve que la question empreinte de gravité transcende largement les clivages politiques.
Comment lutter contre la soumission chimique?
5 mois après le retentissant procès dit des viols de Mazan, un rapport parlementaire doit être remis cet après-midi au gouvernement. On y trouve une 50aine de recommandations, dont 15 sont à mettre en œuvre en priorité dès cette année, en particulier pour améliorer la prévention et l'accompagnement des victimes de ce fléau. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Laïla Chaouachi, médecin, par ailleurs fondatrice du Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Bonjour madame.
Bonjour.
Après le procès donc des bourreaux de Gisèle Pelicot, mais aussi la tentative présumée de soumission chimique par un sénateur sur la députée et rapporteure de ce texte, Sandrine Josso, la publication de ce rapport parlementaire peut être lue comme la confirmation d'une certaine prise de conscience, peut-être s'agissant d'un mal assez largement méconnu jusqu'à présent, longtemps cantonné aux sphères festives dans l'imaginaire collectif. Est-ce que vous-même, vous avez constaté donc un basculement sur ces questions, l'émergence d'un enjeu de santé publique?
Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, au départ, on parlait surtout de la sphère festive. D'ailleurs, il y a eu la libération de la parole européenne en Belgique avec le Balance Tombard en automne 2021. Et il y a eu une résonance sur différents territoires européens et en France, un écho tout à fait particulier, puisqu'il y a eu la sortie du livre de Caroline Darian mettant la lumière sur la sphère privée. Et puis également l'affaire qui a mis en cause le sénateur Joël Guerriau et qui a impacté également la sphère professionnelle. Donc on a très vite compris que le phénomène était multidimensionnel, protéiforme. Et très rapidement, il y a eu cette mission gouvernementale qui a été mise au devant de la scène, avec un point de non-retour qui a été acté avec l'ouverture des procès des viols de Mazan, qui a eu un retentissement à l'international. Ce qui va vraiment dénoter par rapport au mouvement de libération de la parole précédent, l'affaire de Gisèle Pelicot, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que là, il y a une sorte d'électrochoc pour les professionnels de santé, puisqu'on a décrit une errance thérapeutique pendant 10 ans et une incapacité du corps médical à être en mesure de repérer les victimes et de les prendre en charge convenablement.
Ça veut dire que les personnels médicaux ne sont pas suffisamment formés aujourd'hui sur cette question?
Oui. Mais je dirais plus loin que sur cette question, on a encore trop tendance à parler de la soumission chimique comme étant un phénomène à part. Attention, on parle des violences. Hein. Est-ce qu'on est plus formé sur les violences? Je ne suis pas certaine. On parle d'un mode opératoire criminel. Donc, comment faciliter un passage à l'acte criminel par l'administration d'une substance? Mais initialement, on parle de viol, d'enlèvement, de séquestration, etc. Non seulement on a très peu de formation sur ce sujet, mais on n'identifie pas bien les acteurs qui peuvent nous venir en relais. Donc, il y a un problème aussi de coordination avec les professionnels. Et puis surtout, il y avait jusqu'à présent, en tout cas, et nous l'espérons que ça va changer, une difficulté de diagnostic, puisque les analyses toxicologiques étaient conditionnées au dépôt de plainte pour pouvoir mettre en évidence les substances qu'on a pu administrer.
Alors, vous évoquiez ce problème de manque de coordination entre les différents acteurs amenés à prendre en charge donc ces personnes. Quelles sont aujourd'hui les principales failles dans le parcours d'une personne qui cherche à obtenir la preuve qu'elle a été droguée à son insu ?
Elles sont tellement nombreuses que je ne saurais même plus par où commencer, mais partons déjà du point de départ, vers qui je dois me tourner. Cette question, rien que cette question simple, elle est difficile à répondre pour une victime. Donc elles ont tendance à pousser la porte des urgences, pousser la porte du médecin, donc pour essayer d'être prises en charge. Et là, elles vont être heurtées aux défauts de prise en charge, soit ne pas savoir quoi faire, parfois même ne pas savoir quoi prescrire. Qu'est-ce que je dois mettre sur mon ordonnance, à qui je dois orienter, vers qui je dois orienter cette victime pour pouvoir être prise en charge convenablement. Et puis, si jamais je devais remettre des résultats d'analyse, est-ce que je suis vraiment en capacité de comprendre ces résultats? Parce qu'on parle tout de même de sciences forensiques, hein, de sciences criminalistiques. Là, on n'est pas en train de parler de bilan biologique lambda qui implique la vie des gens. Et quand on ne se sent pas non plus apte et formé à accompagner une victime, on n'est pas très à l'aise à la prendre en charge de façon générale. Donc, l'impact, il est multidimensionnel et surtout, il est à l'heure actuelle encore conditionné au dépôt de plainte, alors que vous savez que moins de 10% des victimes souhaitent déposer plainte, du moins dans l'immédiat, puisqu'on est prête à déposer plainte plus tard.
Vous l'évoquiez brièvement tout à l'heure, le rapport insiste sur la nécessité de permettre aux victimes potentielles d'obtenir un prélèvement gratuit sans dépôt de plainte préalable. Pourquoi est-ce important ?
C'est très important de considérer la course contre la montre quand il s'agit d'une soumission chimique. Les substances, elles s'éliminent extrêmement rapidement dans le sang et l'urine, quelques heures, quelques jours au plus tard. Après, reste le cheveu, mais qui n'a pas la même pertinence que celle des prélèvements sanguins et urinaires. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir être dans cette capacité à agir rapidement, mais dans le respect de la temporalité de la victime. Si vous dites à une personne, pour le faire, il va falloir déposer plainte, excusez-moi, moi je ne suis pas prête, au moment où vous me parlez, à me ramasser, à aller déposer plainte, parce que j'ai plein de freins à ce dépôt de plainte, à déposer plainte contre peut-être mon père, un collègue, etc. Je ne suis pas dupe des répercussions socio-professionnelles que je vais avoir, et je demande qu'on me laisse le temps d'y réfléchir. Et donc ces prélèvements doivent se faire extrêmement rapidement pour que si je décide de déposer plainte dans un second temps, cela me permettrait d'avoir les éléments de preuve nécessaires. Mais ce prélèvement ne peut se faire que s'il tient compte des difficultés, enfin en tout cas des contraintes à respecter pour que ça ait une valeur sur le plan juridique. Et donc la traçabilité est extrêmement importante.
Une dernière question, c'est l'une des recommandations également de ce rapport. Elle porte spécifiquement sur le centre de référence des agressions facilitées par les substances que vous dirigez. Elle propose de l'autonomiser afin de consolider son rôle auprès des victimes, des professionnels à l'aide de moyens supplémentaires. Concrètement, qu'est-ce que cela changerait pour vous ?
Alors pour moi, c'est un changement fondamental. Pour l'instant, la soumission chimique était noyée dans plein d'autres missions. Et en fait, le défaut majeur dans ce genre de situation, c'est que quand il y a des difficultés budgétaires, quand il faut prioriser les tâches, les droits des femmes, en l'occurrence, et des victimes passent à la trappe. Donc l'avantage, c'est que le CRAFS n'aura qu'une seule mission, c'est celle-ci et pas une autre. Donc même si on devait prioriser, on sera toujours en train de s'occuper des victimes.
Merci Leïla Chaouachi, médecin et fondatrice, donc je le rappelle, du centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain que l'ARCOM doit auditionner les candidats à la présidence de France Télévisions.
Et c'est ainsi que vont se succéder donc devant le régulateur de l'audiovisuel, l'actuelle dirigeante du groupe qui brigue un troisième mandat, Delphine Ernotte, la productrice et ex-députée macroniste, Frédéric Dumas, également l'ancienne directrice générale adjointe de France Télé Publicité, Irène Grenet, et enfin l'ex-directeur de l'antenne de Public Sénat, Jean-Philippe Lefebvre. Alors l'un d'eux sera désigné président ou présidente au plus tard le 22 mai, mais d'ores et déjà, Adrien Toffolet, Delphine Ernotte fait figure de très grande favorite.
Elle a pour elle deux bilans à la tête de France Télévisions. Une décennie au bout de laquelle Delphine Ernotte aura rempli ses objectifs. C'est l'ARCOM même qui en témoigne dans son dernier bilan pour la période 2020-2024, publié en janvier dernier. Malgré un contexte concurrentiel décuplé, peut-on lire dans la vie, France Télévisions rencontre toujours un fort succès public et atteint des audiences jamais enregistrées auparavant. Elle continue d'être un média puissant et fédérateur en termes d'audience et est devenue une des plateformes de télévision les plus regardées sur le numérique en France. Selon l'ARCOM, Delphine Ernotte a également tenu ses engagements en matière de gestion budgétaire, même si cela reste fragile, en matière de diversité des représentations à l'écran aussi, ou encore en matière de gestion des événements exceptionnels, comme la retransmission des Jeux Olympiques de Paris. Delphine Ernotte a également montré une détermination sans faille à combler les exigences des différents gouvernements concernant le rapprochement entre télévision et radio publique, à travers la chaîne commune France Info et la fusion des réseaux France 3 et France Bleu en une marque. Ici, malgré la forte opposition des syndicats de salariés concernés en interne qui dénoncent des sous-investissements ainsi que des confusions et reculs en matière d'éditorial. Et ce dossier en particulier va rester brûlant avec la prochaine étape, le projet de holding porté par Rachida Dati pour regrouper France Télé, Radio France, France Média Monde et l'INA sous une même gouvernance, défendue par Delphine Ernotte, dont le nom circule pour en prendre la tête à sa création. Un troisième mandat à la tête du groupe serait pour elle un tremplin. Fortifier l'union de l'audiovisuel public fait partie du projet qu'elle a présenté aux salariés le mois dernier, projet déjà clivant mais qu'elle a baptisé d'un verbe, réconcilier.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi instable sur la majeure partie du pays avec des averses à caractère orageux. Seules les régions près des frontières de l'Est devraient conserver de belles éclaircies quant aux températures. Elles seront comprises entre 15 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.